Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Pierre et Louis Trappé, ces deux frères bien connus du monde viti et vinicole, m'ont raconté leur histoire, m'ont plongé dans leurs aventures familiales et surtout m'ont raconté le lancement de leur propre domaine. J'ai passé un moment absolument incroyable avec Pierre et Louis, d'ailleurs je suis allé les rencontrer ensuite en Alsace, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps là-bas et même de participer à une polée, c'était vraiment ultra sympathique. Bref, je vous laisse dans cette histoire avec Pierre et Louis, c'était incroyable. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Allez découvrir leur vin et je vous dis à très bientôt. Salut. C'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre, bonjour Louis. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode du Winemaker Show. Du coup, c'est la deuxième fois seulement que je fais un épisode avec deux personnes avec moi. Jusqu'à le tout premier, c'était avec Pauline Bic et Philippe Chandon-Mouette à Saint-Émilion, du coup. C'était très sympa, on s'était régalé, c'était chic, effectivement. Et là, on se retrouve aujourd'hui ici, on est dans Paris, parce que vous êtes de passage à Paris en ce moment, vous présentez votre toute première cuvée, on va en reparler, votre tout premier millésime. J'ai le plaisir d'être reçu par Pierre, qui est un de mes amis ici. On a du matos exprès autour de nous pour faire un truc
partout,
cool.
Hein.
Vous pourrez retrouver cette interview sur YouTube également, si vous voulez l'avoir en vidéo. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bien entendu, on peut se présenter. Alors moi, je m'appelle Pierre, Pierre Trappet. Je suis vigneron en Bourgogne et en Alsace. Et voilà, j'ai un tropisme plutôt pour l'Alsace, mais voilà.
Peut-être ce que t'as fait avant.
Oui, bon, alors ok, mais c'est assez. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait une prépa, une école de commerce, et après mon stage à l'étranger, à Séoul, je me suis dit une grande ville, les vignes me manquent, la nature me manque, et du coup, je suis retourné en Alsace en 2017, début 2017, et donc j'ai commencé à faire du vin comme ça. Bon, bien entendu, on a tous les deux appris à marcher dans les vignes, on aidait les grands-parents dans les vignes pendant les vacances, pendant les week-ends, et enfin, quand on fait des études, des fois, c'est pour savoir ce qu'on veut pas faire, et donc voilà, c'est un métier formidable, voilà.
Yes. Bonjour à tous, bonjour Antoine. Merci de nous recevoir. Alors moi c'est Louis du coup du domaine Pierre et Louis Trappet comme voilà, entre autres on a plusieurs cordes à notre arc. Alors moi j'ai fait une trajectoire qui est peut-être un peu plus directe que Pierre. Moi j'ai toujours été très attiré par le monde du vin, la viticulture et l'agriculture en général, parce qu'on est voilà, on a un métier d'agriculteur aussi avant tout. Moi j'ai fait des études alors au lycée viticole de Beaune, donc un BTS vitienneau. C'est vraiment l'étape presque obligatoire quand on est fils de vigneron bourguignon. On a voilà, nous on doit être la cinquième ou la sixième génération à être passé à la viti. Donc c'est vrai qu'on fait partie des murs et de l'âme justement du lycée et du BTS. Suite à ça, je suis parti 3 mois en Nouvelle-Zélande. Où j'ai fait, en fait on a voilà on est un peu dans un petit microcosme de biodynamistes avec nos parents, etc. On a toujours baigné là-dedans puisqu'on a commencé, enfin mes parents ont commencé en 95 la biodynamie, donc on a toujours fait des stages chez les copains, etc. Donc à chaque fois c'était hyper enrichissant, hyper rassurant, etc. Et c'est vrai que quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, je me suis dit tiens, je vais voir complètement autre chose. Je vais partir dans une très grosse structure. Donc là, je suis arrivé dans un domaine où, voilà, il y a plus de 600 hectares. Donc c'est vrai que on était assez loin de tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans notre cercle familial et d'amis. Donc voilà, encore une fois, Pierre l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire et il faut savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc j'ai pu voir cet aspect-là aussi de la viticulture qui nous était voilà un peu éloigné, mais bon, ça a été très enrichissant, c'était l'autre bout du monde, c'était la découverte, c'était l'aventure. Donc après ces 3 mois en Nouvelle-Zélande, je suis reparti terminer mes études que j'avais peu brillamment commencé juste avant de partir en Nouvelle-Zélande. Donc je suis retourné en Suisse à l'école de Changin, l'école d'ingénieur, et j'ai terminé donc mes 4 ans d'études. Et après on est tous les deux revenus sur le domaine en Alsace. Voilà.
Mais alors du coup vous avez grandi ensemble en tout cas une partie du temps jusqu'à quasiment jusqu'aux 18 ans quoi. C'est à peu près là où vous avez dû vous séparer. Ouais.
Ouais, c'est vrai que même un peu plus, on a fait un peu, voilà, nos études tous les deux sur Dijon. On a 2 ans d'écart. Pierre est l'aîné, moi je suis le second. Et du coup, voilà, on s'est.
Ça se voit plus.
Ouais. Les différences de voilà, d'âge et de taille s'estompent avec les années. Donc ouais, on s'est retrouvé un petit peu. On s'est pas retrouvé parce qu'on était toujours, on a toujours eu, voilà, on a toujours été en. Voilà, on est frères, donc les liens du sang, etc. Donc on a toujours été l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, et on s'est un petit peu voilà retrouvé après les études en Alsace. Donc ça c'est le domaine qui est du côté de maman. Bah tiens, je vais peut-être te laisser parler parce que c'est toi qui es le plus calé.
Donc oui, un domaine qu'on a repris en 2003 au décès de notre grand-père maternel. Se posait la question quand il est décédé de la destination des vignes, est-ce qu'on allait les louer ou il fallait tout refaire. Et donc comme on est vigneron et on peut pas laisser des vignes comme ça, on a décidé, enfin nos parents ont décidé de les reprendre. Donc on a commencé avec 1,5 hectare sur Beblenheim en majorité. Et bon an mal an, maintenant on doit être autour des 15-16 hectares à Riquewihr. Plutôt donc centré autour de Riquewihr, on a des très beaux grands crus qui sont les Schönenburg et les Schlossberg en Riesling. Des Sporen, des Sonaclans, récemment depuis 2019 des Mambourg aussi. Et on a une très vieille parcelle de Pinot Noir sur des Freunes, donc qui n'est pas classée grand cru mais qui est dans l'aire d'appellation. Et en Alsace, on s'amuse pas mal. On a testé pas mal de choses justement ensemble avec Louis. On a fait des engrais verts depuis 2017. On a commencé à mettre des échalas en 2018 dans les grands crus, dans les Schönenburg, et on poursuit à en mettre un peu partout. Après, on a fait des macérations en 2018 sur les Gewürztraminer. Voilà, on s'essaye à beaucoup de choses en Alsace parce qu'on a le cadre pour, on a toute la latitude, les parents nous laissent carte blanche vraiment, et donc on peut s'exprimer enfin librement. Et donc 2018-2019, tu m'as aidé en Alsace et ensuite tu es revenu en Bourgogne, fort de nos expériences en Alsace, et c'est là où on a décidé justement de tout remettre en palissage haut et en échalas, mais je vais te laisser parler de ça.
Oui, bah, peut-être qu'on brûle un peu les étapes, je pense. T'as peut-être d'autres questions. Donc, voilà, après nos deux années communes sur le domaine en Alsace, comme tu l'as dit, qui a été hyper enrichissant, hyper formateur, c'est vrai que voilà, on a toujours baigné dans le milieu de la viticulture, on a toujours eu les pieds dans les vignes, enfin, mais de voilà d'avoir ce projet à deux, travailler à deux, etc. Bah c'est quand même différent de voilà de faire les week-ends, les vacances dans les vignes avec les grands-parents, etc. Là c'est vraiment on n'était pas livrés à nous-mêmes parce qu'on est quand même suivis par nos parents, mais c'est vrai que voilà on était vraiment tous les deux. Donc ça c'était génial. Après moi je suis revenu donc en 2020 sur Gevrey, et c'est là où bah justement oui avec toutes nos expériences d'échalas, de voilà sur les relevés, les palissages, les semis, etc. Bon, on s'est tout de suite lancé sur la Bourgogne. Donc c'est vrai que là il y avait un très gros challenge, puisque alors culturellement c'est vrai que les choses sont complètement différentes. On est historiquement sur des piquets plus bas en Bourgogne. Nous, notre idée, c'était vraiment de remonter le palissage à 1,80 m avec une forte densité de plantation qu'on a en Bourgogne, ce qui nous permettait justement d'aller chercher l'ombre dans les vignes, ce qui était un peu une hérésie dans les années 80-90. Et c'est vrai que Papy, c'est un virage qui... Papy, là, il est toujours de ce monde. Il a bientôt 90 ans cette année. Il a toute sa tête, il est en forme, c'est voilà, il est incroyable. Mais il a pas forcément trop compris notre démarche, parce que voilà, eux cherchaient plutôt la lumière et nous on cherche plutôt voilà, plutôt l'ombre. Donc ouais, ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Après on lui a expliqué les choses et comme il est assez intelligent, il a très vite compris voilà qu'on voulait protéger nos raisins, surtout protéger nos sols aussi, parce qu'on a remarqué que voilà avec les chaleurs qu'on a, nous au mois de février, on chope déjà des coups de soleil, enfin c'est quand même assez hallucinant et déroutant. Donc c'était vraiment voilà la protection contre le soleil qui est de plus en plus brûlant. Éviter de trop labourer nos sols par justement ce que Pierre a dit, les engrais verts, etc. Éviter en fait d'oxyder toute cette matière qui serait captive de l'eau. On parle beaucoup de l'humus nous en ce moment, parce que c'est vrai que c'était 1 kg d'humus retenait à peu près 3 litres d'eau. Donc on comprend bien que si on détruit cet humus en trop labourant, par excès les sols, on va justement perdre toute cette capacité de rétention de l'eau dans le sol, et ça va être un élément qui sera primordial, je pense, dans les quelques années à venir. Et donc voilà, ça sera sans doute, c'est un élément, c'est pas forcément une solution, mais c'est un début de, ça permet d'appréhender déjà un petit peu mieux les années de sécheresse qu'on a de plus en plus. Ouais. Voilà. Donc voilà, début à Gevrey en 2020, année plutôt facile, parce que voilà, année où on n'a pas eu d'excès d'eau, on a eu de très fortes chaleurs, mais bon, c'était supportable pour la vigne. Et puis après, arrivé 2021, où là, c'était déjà, les nerfs ont été mis un peu plus à rude épreuve. On a eu une année avec beaucoup de pluviométrie. C'était assez compliqué. On s'est bien battu. On a bien réussi. Les vins maintenant se goûtent très bien. Ils sont encore en fût, mais voilà, on a fait une grosse dégustation avant-hier, donc on a tout regoûté. Et puis voilà, depuis, ben, on est là pour parler aussi de notre projet en Côte de Beaune, Pierre et Louis, le domaine Pierre et Louis Trappet. Donc ça, c'est un petit projet qu'on a eu depuis 2019.
Donc au moment où vous vous retrouvez en Alsace.
Exactement. C'était à peu près à cette période-là. En fait, c'est assez simple, l'histoire du domaine. C'est un domaine qui est historique sur Auxey-Durès. C'était la famille Prunier. Donc, Auguste Prunier, c'est le grand-père de ma compagne. Et du coup, ben, voilà, ça fait aussi, je fais une petite parenthèse, ça fait un an et 3 semaines qu'on a un petit Auguste aussi. Donc
on l'embrasse, sinon voilà. Regarde, peut-être qu'il regardera plus tard.
Bientôt, ouais, ils sont assez attirés par les écrans déjà, ouais. Donc voilà, ça m'a aussi un peu sédentarisé plus sur la Bourgogne, c'est vrai, parce que voilà, ça crée aussi des attaches, des liens, etc. Donc pour voilà, pour le projet, on a repris en fait les vignes de la famille de ma compagne, de Eric et Bernadette. On les embrasse aussi s'ils nous regardent. Je suis pas sûr que sur TikTok ils soient trop branchés, mais bon, qui sait, on leur montrera. Et du coup voilà, Eric est parti en retraite et il nous a très voilà, très gentiment, il nous a fait confiance, il nous a proposé les vignes, ce à quoi on a tout de suite répondu banco, parce que voilà, voilà, on est vigneron, on aime les challenges, on aime voilà apprendre des nouveaux terroirs, des nouveaux lieux. La Côte de Beaune, ben c'est vrai qu'on connaissait pas vraiment plus que ça par des copains, etc. Donc là, on a eu, moi j'ai une période un peu d'immersion pendant 2 ans en parallèle avec l'Alsace, où j'allais prêter main forte à mon beau-père pour vraiment m'imprégner des lieux, pour vraiment ressentir les choses, les énergies. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est vrai que quand on arrive dans un nouveau village, on est un peu déboussolé, et puis on rentre un peu dans un nouveau, c'est nouveau monde, ouais. Donc c'est important voilà d'arriver avec beaucoup d'humilité, d'expérience, d'histoire, de voir un petit peu comment tout ce microcosme est déjà organisé. Et c'est important de pas arriver, de pas non plus tout chambouler du jour au lendemain. Donc voilà, il y a le poids des histoires, il y a le poids des générations avant, etc. Donc je pense qu'on a réussi à prendre en compte un peu tout ça. On est accepté par les gens du village, donc c'est déjà une grande victoire. Et puis après voilà, le reste se déroule tranquillement, pas de souci.
Donc du coup, ça c'est le projet de travailler ensemble sur un nouveau domaine ou de créer quelque chose tous les deux. C'est quelque chose dont vous discutiez quand vous étiez en Alsace ou même avant?
Alors oui, c'est vrai que l'Alsace, ça a déjà été le premier un peu pré-projet, même s'il était déjà existant, mais de nous deux. Oui, bien sûr. Mais voilà, on a déjà travaillé tous les deux ensemble. Ça c'est arrivé un petit peu pas précipitamment, mais c'est exactement, c'est l'occasion qui est arrivée, qui s'est un peu voilà apporté à nous. Après nous, ça nous a pas fait peur de travailler ensemble, parce que voilà, on a des tempéraments qui se complètent bien. Pierre est peut-être un peu plus cartésien que moi. Moi je suis un peu plus je fais des essais, j'essaye, et puis si ça marche ça marche, et si ça marche pas voilà. Pierre, toi t'as l'esprit qui est peut-être un peu plus carré que moi. Ouais. Oh. C'est un peu. Et du coup voilà, ça nous a pas fait peur du tout, parce qu'on voilà, on avait déjà fonctionné ensemble et on sait que voilà, ça marchera toujours, parce qu'on a cet esprit justement de famille où voilà, on est
des liens fraternels.
Voilà, des liens de sang.
Comment ça se passait justement plus petit, comment est-ce qu'on apprend le vin, comment est-ce qu'on appréhende le vin quand on est petit et qu'on baigne dedans? Est-ce que c'est Est-ce que c'est un peu une omniprésence et en fait on s'en rend pas compte et au final bah le week-end pendant les vacances etc. En fait on va voir papy mamie et bah par défaut on est dans les vignes et du coup voilà ça se passe comme ça. Ou alors est-ce qu'il y a une approche peut-être plus rationnelle ou plus carrée en mode presque des demi-cours en mode là on va te montrer comment ça fonctionne ou on va te montrer spécifiquement à quoi ça correspond.
Commence avec une goutte de vin sur le
ouais, ouais, dans le biberon. Non, bah après, on est dedans en fait. C'est la famille. On est vigneron depuis X générations. On peut pas faire sans. Les parents qui sont à 100% dedans, qui pensent comme ça tous les midis, tous les soirs, on discute de ça à table. On est vraiment immergé dans le milieu, même si pas forcément on se destinait à faire ça non plus. Enfin, Louis peut-être un peu plus, moi un peu moins. Mais par la force des choses, on travaille dans les vignes parce qu'il y a du boulot et puis qu'il faut le faire. On a tous les deux appris à marcher dans les vignes. La grand-mère en Alsace, on était dans un, par exemple, on était dans un ski club dans les Vosges. Et après les entraînements le samedi, ben le samedi après-midi, on allait tirer du bois dans les vignes, quoi. Donc en combinaison de ski. Donc on fait avec, on vit avec, et au bout d'un moment, quand les choix se présentent devant nous, ben ils sont logiques. Tu peux pas faire autre chose. Enfin, tu l'as ancré en toi, tu l'as dans les mains, tu l'as dans la tête, et tu peux pas faire autre chose.
T'étais en école de commerce. Oui. Est-ce que tu te destinais à faire du commerce de vin, ou enfin en tout cas à travailler dans le vin, ou est-ce que tu, au départ, t'avais une idée qui était complètement différente et en fait tu t'es rendu compte petit à petit que c'était pas exactement ce que tu voulais? Ou est-ce que tu t'es dit, en fait, t'as suivi la voie classique de bah, je suis pas trop mauvais, je fais une prépa, ça se passe bien, boum, je rentre dans une école de commerce, ça se passe pas trop mal, j'ai pas envie d'être consultant et il y a une opportunité qui se présente et boum.
J'ai laissé, non, tu laisses couler, enfin, et c'était toujours la prépa. Moi j'ai préféré la prépa à l'école de commerce, bon, pas pour les mêmes raisons, mais après c'était intellectuellement très stimulant, mais après c'était aussi pour s'ouvrir à autre chose, voir un peu de pays.
Tu faisais des stages dans le vin ou
oui, rien à voir. Ouais, j'ai fait tous mes stages dans le vin. J'ai fait un stage au Cave Le Grand là à Paris. Où j'ai fait plusieurs choses, hein. J'ai même fait cuisinier. Et après j'ai fait un stage aussi en Allemagne chez Birkenwolf. Et après bon, j'ai fait mon semestre à l'étranger à Séoul, mais là pas forcément pour le vin, mais oui, c'est tout forcément lié.
Ça reste ultra présent. Tout à l'heure, tu nous as pas mal parlé de l'Alsace. Moi, c'est une région dans laquelle je suis jamais allé, l'Alsace, à mon grand désarroi.
Faudra
parce que j'aime beaucoup ce qui se fait là-bas et surtout j'ai appris que c'était une région qui avait été ultra pionnière de la biodynamie, de ces nouvelles approches de la viticulture, etc. Et c'est aussi une région qui a l'air passionnante parce que bah très peu large mais très longue, très haute.
Très longue, oui.
Donc j'ai hâte d'y aller, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller
quand tu veux.
Avec grand plaisir. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur les terroirs, les types d'appellations? Tu nous as parlé aussi tout à l'heure de grands crus, etc. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont comme moi, qui connaissent pas spécialement grand chose à l'Alsace, est-ce que tu peux nous expliquer un peu théoriquement en tout cas ce que c'est?
Théoriquement, oui. Il nous faudra un verre déjà sur la table.
On goûtera plus tard.
L'Alsace, c'est une magnifique région qui est une diversité folle. On a tous les sols français en Alsace. C'est pourquoi on a aussi autant de cépages que de types de sols. C'est une histoire aussi très riche, historique. Moi, j'adore l'histoire, donc je m'éclate là-bas aussi. On a été ballotté par l'histoire entre l'Allemagne, la France. Et donc tu as un caractère très fort. Tu as des paysages qui sont fabuleux, enfin majestueux vraiment. Et donc quand tu es dans ces villages médiévaux, mais spécialement Rigvir, qui est vraiment très préservé de toutes les deux guerres mondiales, tu peux que t'émerveiller d'être dans ces vignes-là et de te poser les questions, qu'est-ce que les anciens faisaient, pourquoi ils ont appelé ce lieu dit comme ça. Et donc l'Alsace, vraiment ce qui caractérise l'Alsace, c'est vraiment cet esprit de diversité. Alors que tu sois dans la vallée de Kaisersberg où on a des vignes, donc les grands crus Schlossberg qui sont sur des granites, donc des sols très minéraux, donc c'est du sable, hein. Ou alors à Riquewihr qui est plutôt une aire de marne, donc des sols argileux et calcaires qui te font des vins complètement différents, et tu traverses juste la colline et tu as des choses qui sont extrêmement diverses. Donc tu as de la diversité, et je pense que les anciens qui se sont lancés dans la biodynamie parce que c'était la biodynamie vient d'Allemagne, Rudolf Steiner dans les années 20. Je pense qu'il y avait un esprit un peu plus, je dirais, tourné vers la nature, peut-être un petit peu moins, comme tu disais, cartésien, moins scientifique, mais plus dans le ressenti, plus dans la sensibilité et l'observation. Et ça, quand tu travailles la vigne, les chiffres c'est bien, les analyses c'est bien, mais il faut aussi avoir la sensibilité, le toucher. Ce qu'on a eu depuis tout petit, on a vécu là-dedans aussi, ressentir les choses, ressentir la nature. Et c'est comme ça que tu es beaucoup plus réactif. C'est comme ça que tu vas comprendre la finalité des choses, la globalité des choses. Et c'est pour ça qu'on a vu tout de suite que les semis c'était intéressant, que faire de l'ombre pour avoir des raisins qui ne sont pas au soleil, c'était important aussi. Et tu comprends beaucoup de choses quand tu es sensibilisé à ça. Et la biodynamie en Alsace, vraiment c'est l'influence germanique qui a fait ça. Et c'est une région qui est un petit peu en retrait aujourd'hui, qui a eu marché à l'époque. Historiquement, c'était une des régions les plus dotées dans le Saint-Empire romain germanique. C'était la région la plus au sud, donc ça faisait les vins les plus complets et complexes. Tous les empereurs autrichiens se battaient pour avoir des vins alsaciens. Et alors ça a un petit peu évolué quand ça a été annexé 1648 à la France, parce que avant on avait le commerce, on pouvait mettre nos vins sur les bateaux sur le Rhin, et une fois que on a été français, la route a été coupée, il fallait traverser les Vosges. Donc là, moins de débouchés, donc on est un peu descendu. Et après, il y a toujours eu en Alsace, comme c'est une terre qui est très très riche, on a pas mal d'eau dans le sol. Il pleut très peu en Alsace. On est à 600 mm d'eau. On est une des régions les plus sèches de France. Mais on a des nappes phréatiques qui sont très proches de la surface, et donc on a toujours eu des terres très fertiles. Et on a eu des vins qui étaient des vins de soif, mais aussi des grands vins, des grands crus, voilà, on peut en citer, il y en a 51. Et donc voilà. Et l'Alsace, donc voilà, c'est très très complexe à appréhender pour quelqu'un qui est de culture plus latine. Ce qu'on appelle en Alsace des Français de l'intérieur, c'est assez compliqué, avec des noms à rallonge et imprononçable, mais ça gagne vraiment à être connu, et il y a tellement de choses à découvrir. Et aujourd'hui, comme on est un peu, comme je le disais, en retrait, on est obligé de se démarquer, on est obligé d'innover aussi, pas forcément dans les lieux, mais aussi dans la façon de faire. Les macérations sont très intéressantes. Il y a aussi toute une vague de vin nature qui se met en place. Donc vraiment, c'est une terre d'innovation, une terre pionnière en beaucoup de choses. Voilà, c'est faut la découvrir, absolument.
Écoute, avec grand plaisir, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie d'y aller. Il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Ouais, bah on ira.
À vélo et tout. En plus, ça a l'air super cool à faire. Un peu vallonné, mais.
Ah bah oui, là, il faut un vélo électrique. Hein.
Il faut un vélo électrique. Ouais. Tu sous-estimes la puissance de mes cuisses. Mais ok. Non, mais ultra intéressant. Donc, tu parlais de biodynamie. Vous, c'est des pratiques dans lesquelles vous avez baigné depuis tout petit.
Ouais.
Vous sentiez que c'était un peu différent pour l'époque, ou peut-être en cours, ou peut-être dans tes années de BTS Vitigono, ou c'était déjà quelque chose qui était...
Non, alors pour mes années de BTS Vitigono, voilà, je vais pas faire de la pub à la Viti, mais on en a très peu parlé en fait. Tout ce qui est un peu ésotérique, en général, c'est assez loin de ce qu'on apprend dans les manuels, et les manuels qui sont pas forcément très à jour aujourd'hui. non, nous on a eu cette sensibilité parce qu'en fait on a toujours baigné dedans. Mes parents, ils nous ont toujours, voilà, on a fait beaucoup de stages, des stages de sensibilisation, voilà, où on a fait des préparations on a mis des boosts dans des cornes. Enfin voilà, on a toujours fait ça quand on était gamin. C'est vrai que voilà, là c'est peut-être un peu violemment, mais voilà, on a toujours baigné un peu dans ce truc-là où on a fait voilà des stages sensoriels,
des levées tôt pour aller pulvériser.
Ouais, exactement. Ouais, ouais, des levées tôt. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'essayer de rentrer en contact avec le végétal, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive toujours pas, mais mais voilà, à goûter des trucs, à voilà, on fait encore quelques stages comme ça qui sont super enrichissants. La dernière fois, on était en Alsace et c'est vrai qu'on a goûté vraiment tout du cep de la vigne. Donc il faut manger des racines, il faut manger des écorces, il faut manger des vrilles, il faut goûter des feuilles, il faut manger les fleurs. Enfin, faut vraiment tout goûter pour essayer de ressentir un petit peu l'énergie que la plante a, et éveiller nos sens, et éveiller un petit peu les sens de la vie. Je pense qu'il faut essayer de rentrer en compréhension. On n'arrivera jamais à tout comprendre du végétal, ça c'est évident, mais il faut essayer de créer une symbiose justement entre le végétal et nous. Et c'est pour ça aussi qu'on est reparti sur d'un point de vue un peu plus technique sur les échalas, parce que vraiment quand on se balade dans nos vignes, ou on se balade, quand je dis balade c'est travail, mais bon, nous c'est une passion donc c'est une balade. on a vraiment un ressenti particulier. On a vraiment une sensation d'apaisement, de liberté. On s'est vraiment affranchi de tous les fils de fer. Donc c'est vrai que la vigne, qui est une liane, pousse librement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On n'a plus cet aspect deux-dimensionnel du rang. On a vraiment, on peut faire le tour. On ressent vraiment une énergie particulière au sein de ces échalas. Donc ça a été aussi pour nous une super découverte. C'est une découverte qu'on a faite en Alsace, mais aussi chez d'autres copains en Bourgogne qui s'étaient lancés un petit peu avant nous. Et c'est vrai que la sensation de bien-être en arrivant dans des vignes comme ça, elle est absolument fantastique. Mais il faut avoir été sensibilisé auparavant. Il faut pouvoir justement ressentir ces éléments d'énergie. Et ça s'apprend pas dans les livres. C'est de la pratique, c'est de la sensibilisation. Et voilà.
Ouais, c'est assez bon. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant de vraiment m'intéresser au vin et de, tu vois, commencer à essayer de comprendre un peu les différentes pratiques. Je pense que une des toutes premières personnes qui m'en a vraiment parlé, c'était Michel Chapoutier, il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Il m'avait parlé d'une expérience qui était ouf, où ils avaient fait une sorte d'électrocardiogramme à la plante. Et en gros, tu t'approchais d'elle normalement, et après tu t'approchais d'elle avec un briquet. Et en fait, tu voyais que les réactions étaient pas du tout les mêmes. Et c'est en mode, mais en fait, what the fuck, tu vois. Enfin,
c'est du vivant.
Ouais. C'est un truc de fou. Mais après, je pense que j'y suis beaucoup moins confronté que vous, et du coup, beaucoup moins sensibilisé et beaucoup moins présent souvent. Par contre, je pense qu'il y a deux éléments que je retiens, c'est que quand t'es en biodynamie, en général, tu fais des choses avec beaucoup plus d'intention et t'apportes beaucoup plus de ton temps, de ton énergie à la vigne. Et en fait, je sais pas si effectivement tu as une bouse dans une corne, ça fait un truc ou pas. Sûrement, mais en fait, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais le fait d'y passer du temps, le fait d'y donner de l'énergie et tout ça, et d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques, en fait, forcément, t'arrives à quelque chose de meilleur, en fait, puisque tu passes plus de temps. Et tu mets de l'intention en plus dans ce que tu fais, donc la bouteille à la fin, elle représente vraiment quelque chose du travail et tout ça, donc ouais, c'est cool. Et je pense que il faudrait qu'on fasse l'essai, un de ces quatre, on le fera avec un beau setup comme ça, mais tu goûtes, je pense que tu goûtes des vins en biodynamie et pas en biodynamie. Je pense que tu split le classement assez rapidement. En tout cas, t'as des styles qui sont différents, je pense.
C'est évident. Nous, on connaît une personne qui s'appelle Bruno Kenyou, qui est absolument fantastique. Lui, il fait justement, peut-être que tu connais un petit peu, il est sur Paris aussi. Lui, il fait justement ses dégustations géosensorielles.
On les fera ensemble alors.
Ah bah lui, il est très fort, et c'est quelqu'un qu'on a plaisir à recevoir à la maison, parce que c'est quelqu'un qui nous éclaire aussi beaucoup, qui est vraiment dans l'apprentissage, qui nous ouvre les yeux sur énormément de choses. Et c'est vrai que c'est, faut aller le voir. C'est quelqu'un qui est fabuleux.
Il avait écrit un livre, non, assez récemment.
Oui, il avait. Alors,
Frédéric Zeymet me l'avait filé.
Ça m'échappe.
Je les embrasse tous, toutes les personnes que je cite. On mettra le lien en description. T'inquiète pas, mais. Écoute, promis, j'irai le voir. Et c'est vrai que les dégustations géosensorielles, je pense que j'en suis clairement pas là dans ma maturité de dégustation de bouche et tout. Alors évidemment, enfin, il y a des textures qui sont différentes, mais de là à le faire les yeux bandés, et, tu vois, dans le noir et tout. Ça, je trouve ça incroyable.
Ça se travaille.
Mais ça doit être une expérience.
C'est un muscle,
cool.
Donc faut le travailler, mais ça fonctionne. Enfin, on a tous des prédispositions différentes, mais ça se travaille et ça marche.
Écoute, dans quelques années, j'espère, on se reverra, on fera une dégustation géosensorielle complète. Avec plaisir. Donc vous retrouvez ensemble en Alsace. Quelques années plus tard, il y a un an et demi, donc de ce que tu me disais, à peu près de 2 ans. Vous avez cette opportunité de créer quelque chose ensemble, pas depuis zéro, parce que il y avait des vignes qui étaient là, des choses qui étaient là, mais en tout cas de fonder quelque chose tous les deux. Le choix s'est fait de manière à peu près immédiate et clairement unanime et logique. Donc, vous décidez d'y aller. C'est quoi le premier jour?
Le premier jour, waouh. Voilà, alors moi c'est des lieux que je connaissais un petit peu plus que toi Pierre, parce que voilà, comme je te l'ai dit, Justine m'accompagne, ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on est ensemble, donc les lieux je les connaissais, y a pas de souci. C'est vrai que le jour 1, c'était vraiment le tour des vignes ensemble, nous deux. Avec personne autour, où on se disait les choses.
Qu'est-ce que vous dites justement à ce moment-là?
Eh ben, on s'est dit, youpi, cool, génial. Non, franchement, c'est des lieux qui sont assez impressionnants, parce qu'on est, je pense, t'es déjà venu du côté de Meursault, Auxey, tous ces coins-là. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment hors du temps. On est vraiment dans un lieu où le paysage est fantastique. On a justement ces petites combes, ces petites vallées qu'on retrouve aussi un peu en Alsace. ces retraits de côte qu'on a avec Saint-Romain, tous ces lieux un peu inédits. Et c'est vraiment une sensation de liberté, tu vois. T'as des éléments paysagers, on a encore énormément de forêts, on a encore énormément de prés. Enfin, voilà, c'est vraiment ce dont on tend à revenir sur Gevrey, sur l'Alsace. L'Alsace est peut-être un peu plus en avance, mais on fonctionne avec d'autres projets, des projets de nouveau avec de l'agroécologie. Enfin voilà, on essaie vraiment de réintégrer tout un univers naturel, avec des haies, avec des prés. Là, on a replanté des pommiers. On va faire un peu de cidre sans doute. Mais voilà, on essaie vraiment de retrouver tout ce microcosme qu'on avait retrouvé déjà un peu sur Auxey, parce que je pense que le temps s'est un peu figé là-bas. Et c'est vrai que c'est assez chouette de voir encore des agriculteurs, des fermiers dans le village, ce qui s'est perdu un petit peu dans tous les villages viticoles, parce que la vigne a supplanté un peu toute cette agriculture, ce qui est dommage, parce qu'il faut que ça fonctionne ensemble. Alors qu'à Auxey, je pense que les choses sont restées un petit peu plus traditionnelles dans le village. Voilà, et c'est vrai que nous, ça nous a fait un grand bien d'arriver à cet endroit-là, et on s'est dit, bon, tout n'est pas perdu. Voilà. Donc ça c'était vraiment le premier jour. C'était un grand souffle nouveau. Ouais.
Après on découvre les lieux à deux, on va dans les parcelles, on ressent le sol, on ressent l'atmosphère générale, le climat, l'inclinaison de la côte, l'orientation. On étudie aussi. On a des très très vieilles vignes aussi. On a pas mal de parcelles qui sont plantées dans les années 30, une 45. Vraiment, on a des très vieilles vignes, des vieux pieds. Tu comprends comment elles ont été travaillées avant. Donc ça c'est vraiment le premier jour, le premier tour qu'on a fait dans les vignes. Les noms sont quand même évocateurs aussi. C'est assez marrant, des fosses, des hautées. Enfin, tu les comprends quand tu vas sur les lieux, quoi. Et ça, c'est très intéressant aussi.
Il y avait des jus aussi à goûter, ou des vieilles bouteilles, ou des choses comme ça, ou pas du tout. C'était vendu plutôt en.
Pendant les repas familiaux, il y en avait. Il y en avait. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais on y faisait goûter, hein. Mais... après, Louis a plus l'habitude.
Alors pour en revenir un peu sur l'histoire, du coup de mes beaux-parents et puis des grands-parents de mes beaux-parents, parce qu'en fait le domaine est historique sur Auxey-Duresse. Et en fait mon beau-père a repris les vignes de son grand-père, parce que son père ne voulait pas être vigneron. C'était un métier qui était dur, qui était éreintant, qui était fatigant, et puis c'était pas ce qui l'animait. Donc son papa est parti sur Besançon faire tout autre chose. Il a travaillé avec son papa jusqu'à à peu près ses 40 ans. Il est revenu sur les bancs de l'école à ses 40 ans. Il est revenu à la Viti, en fait. Il a fait son BPREA sur 2 ans et il a repris les vignes de son grand-père, dont il avait toujours en fait suivi la progression. Il venait toujours pendant les vendanges. Enfin, voilà, il avait ce lien à la terre qu'il l'attirait toujours, en fait. Ça travaille toujours, ouais, c'est fou. Et en fait, lui, c'est vraiment ses souvenirs d'enfant dans les vignes, etc., qui l'a fait revenir à ce milieu de la viticulture. Donc lui, il est revenu un peu sur le tard vers ses 40 ans. Il a bossé pendant à peu près 23 ans. Il a fait du vin, il a vendu une partie au négoce. Donc, on a des bouteilles. Il a fait des super canons. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de, on a comparé justement avec lui. On a fait, j'appelle ça la dégustation d'agrément. Le premier millésime justement qu'on a fait avec Pierre, on l'a dégusté en parallèle avec les vins qu'il avait produits lui aussi. Et c'est vrai que c'était assez étonnant justement de mettre en comparaison, sur 2 années différentes avec 2 ans d'intervalle, le temps de la vinification, un même lieu. Travailler, vinifier différemment sur un laps de temps qui est finalement assez court. Et alors, c'est vrai qu'on aurait pu le faire à l'aveugle. On retrouve extrêmement bien, extrêmement précisément les lieux, ce qui est normal. Mais on a un vibrato, on a une énergie qui est un petit peu différente. On a une patte forcément du vinificateur qui est un petit peu différente. Mais on retrouve à 99% les lieux. Et ça c'est assez fort. Donc ça voudrait dire que c'est pas qu'importe ce qu'on fait dans les vignes, mais c'est l'énergie qu'on y met, etc. Mais lui, voilà, était très énergique. Il mettait aussi beaucoup beaucoup d'énergie dans ses vignes et dans son vin. Mais justement, le terroir supplante un petit peu tout ça, et on arrive à retrouver, avec quelques notes différentes, bien évidemment. C'est vraiment des énergies. Exactement. C'est du polish. C'est les petites notes de finale qui supplantent. Mais le terroir est toujours bien ancré. On a, comme Pierre le disait, une génétique qui est absolument fabuleuse en Côte de Beaune. On a nos plus vieilles vignes de Chardonnay ont été plantées en 1924 dans les fosses. On a une super parcelle d'aligoté qu'on travaille de 3 façons. Qui a été planté dans les années 34, Ça fait partie aussi des très vieux cèpes qu'on a. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que la ligotée, c'est vraiment un cépage qui est assez rustique et qui s'exprime beaucoup au niveau de son cep. Donc, on a vraiment des pieds d'aligotée. C'est des troncs, quoi. C'est hallucinant. C'est des trucs qui font 40 cm de circonférence. C'est absolument magnifique. On voit, quand on va tailler dans ces vignes, on voit, on imagine, la vie du cep, ce que les anciens ont fait, etc. Donc c'est assez émouvant. Faut être un peu ouvert à tout ça et pas faire les choses de façon mécanique. Mais nous on aime bien essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé sur le cep. Et voilà, donc c'est aligoté en trois façons. On a un pressurage direct, qui est une méthode assez classique. Nous on va toujours un petit peu, on va toujours chercher les maturités dans les vins. Surtout dans les aligotés, donc c'est vrai que en général quand on va vendanger là-bas, il y a plus personne autour, on est à peu près tranquille dans les vignes, ouais. Ils ont déjà tous fini depuis au moins 2-3 semaines, donc là on a vendangé nos aligotés il y a 3 semaines, donc on y allait, on y va toujours très tardivement. Donc pressurage direct, première façon. Deuxième façon, on fait une macération sur environ 3 semaines. Donc là on a fait un décuvage lundi dernier. Donc c'était notre dernier décuvage. Et la troisième façon, c'est du passerillage. Donc ça, c'est une méthode qui est assez qui est inédite en Bourgogne, parce que moi je connais. Il y en a eu fait, mais moi je les connais pas.
Donc du coup, ce que ça veut dire pour les personnes qui nous écoutent, donc il y a une première partie qui est, on va dire, relativement classique. On presse le jus, on presse les raisins, on met en fermentation. Deuxième partie, macération. Donc là, c'est on laisse les raisins cueillis entre guillemets, mais ensemble pendant un petit peu de temps macéré justement. Troisième partie, passerillage. Ça veut dire, vous me dites si j'ai dit une connerie entre temps, mais jusque là ça va. Ça veut dire on laisse le raisin sur la vigne, on attend encore plus tard, il y a une pourriture noble qui arrive dessus. C'est un peu l'équivalent du botrytis en vers sauterne, enfin c'est quasiment pareil. Et donc on vous le récoltez plus tard avec des sucrosités qui sont forcément plus importantes.
Alors la technique est presque celle-ci.
Je suis pas mal, hein. Franchement, pour les personnes qui nous regardent, je suis pas mal.
C'est une façon de passerier les choses.
Il y a d'autres façons de.
Ouais, il y a d'autres façons. Nous, on travaille un peu différemment. En fait, on va les couper, on va les chercher, on va les récolter. Après, on les sélectionne. Donc ça, c'est un gros boulot. On est 4 personnes pendant une journée dans des petites caissettes ajourées. L'idée, c'est vraiment.
On sélectionne baie par baie.
Alors, on fait pas baie par baie, on fait raisin par raisin.
Ah, d'accord.
Mais c'est déjà assez long.
Ouais, c'est déjà très long, ouais.
Et il faut garder la raf, c'est l'élément structurant pour les passerillages, pour les raisins en passerier. Donc après, on les transfère dans une autre caissette. Il faut vraiment que le raisin soit très lâche. Il faut vraiment que l'air circule entre les grumes pour éviter justement la mauvaise pourriture, entre guillemets, qui est plutôt de la moisissure que de la pourriture. Enfin, voilà. Et après, donc, ces caissettes sont entreposées en extérieur, à l'air libre. Et en fait, le raisin va se concentrer par évaporation de l'eau. Donc, on va concentrer nos sucres et surtout, ce qui est très important, c'est nos acidités. Et la ligotée en a quand même pas mal. Et donc du coup en général c'est entre Noël et le jour de l'an. Si tout se passe bien au moment du jour de l'an, après ça sera peut-être même après le jour de l'an, peut-être pas à partir du 2 janvier, mais voilà, ça dépend des vendanges. Et on refait justement le pressurage au mois de janvier, voilà.
Et donc après là vous avez 3 jus différents et vous les assemblez plus tard. Ok.
Non, justement, on maintient l'expérience jusqu'au bout et ça donne vraiment des jus complètement différents, enfin des styles qui sont complètement différents.
Oui, mais on en avait deux hier, oui, je suis con, oui. Il y avait la ligotée
classique
et la macération.
Et la macération, okay. Voilà. Et donc ton pressurage direct, alors faut savoir qu'au domaine aussi, on fait sur tous nos blancs, on fait aussi un léger foulage. Que ça soit en Alsace ou en Bourgogne. Donc on va venir juste éclater la baie juste au-dessus du pressoir, ce qui permet de nous sortir environ 60% du jus de goutte sans pressurage. Donc sans pression, t'as déjà du jus clair qui coule. Et ça, c'est assez intéressant pour justement avoir un léger skin contact sans pour autant triturer et avoir trop de contact avec la peau. Mais donc ça te permet de tirer aussi des amères, des polyphénols. Enfin, c'est assez intéressant pour la vinification en blanc. Donc ça c'est le premier pressurage direct. On va faire fermenter en cuve et on le finit en fût. Ensuite, on a la macération. Donc, comme tu disais, c'est comme un rouge. On va mettre les baies, ça va macérer ensemble. Et ça, c'est très intéressant pour justement aussi au niveau technique, au niveau de du réchauffement climatique. Avec l'évaporation, tu vas perdre un petit peu d'alcool. Donc, quand t'as des cépages qui montent trop. C'est pas le cas de la ligotée, parce qu'on a des belles maturités, mais on dépasse jamais les 13 degrés. Tu vas perdre du sucre ou de l'alcool. Et ça te permet d'avoir un niveau supplémentaire dans l'aromatique, dans les tanins, ce qui est rare dans du blanc, ou alors il faut serrer le pressoir très fort. Mais ça te fait vraiment quelque chose de complètement différent, un autre espace d'expression. Et ton passerillage, tu vas avoir justement un liquoreux qui est intéressant parce que, alors le ligoté n'est pas non plus, bon malgré les maturités qu'on a, un cépage très expressif, mais ça va te faire justement un bel équilibre entre l'acidité et le sucre, une belle longueur, et je pense que ça c'est vraiment un vin qu'il va falloir garder très très longtemps pour que le vin mange son sucre. Ça c'est, tu le vois dans tous les grands vins liquoreux, tu n'as plus cette sensation de sucrosité, mais tu as une harmonie, une rondeur, une douceur qui englobe complètement avec une trame, une colonne vertébrale d'acidité. Et ça dans le pastillage, tu fais x10 quoi. Enfin parce que tu l'as concentré. Ah bah oui, hein, au lieu de mettre dans le formol, tu mets dans le sucre, ça marche aussi. Et donc voilà, donc ça fait trois expressions d'aligoté de la même parcelle, complètement différentes, très intéressant pour nous, et on s'amuse à faire ça vraiment. Et il y a que dans ces entre guillemets hein, petites appellations de côte de Beaune, en retrait de la côte, que tu peux te permettre ça. Aujourd'hui, en Bourgogne, enfin, faire du funky comme ça, c'est compliqué. Il y a quand même un cadre, une tradition. Alors, on s'amuse tout autant à Gevrey, dans le cadre, mais tu peux faire complètement quelque chose de différent. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir ce domaine-là, c'est de sortir des sentiers battus et de s'amuser là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est.
Ouais. C'est clair. Ouais. Ultra intéressant. Donc ça, c'est les trois aligotés. Et si j'ai bien retenu, du coup, hier, on était à une dégustation. Vous nous aviez gentiment invités dans le cinquième. Il y a ces trois aligotés. Meursault.
Oui.
Saint-Romain.
Oui.
Et un Auxey-Duresse.
Un Auxey, oui.
En blanc. Et en rouge, si je ne sais pas ce qu'on a, il y a un Auxey-Duresse, un Pommard. Et le troisième, c'est quoi?
Nos premiers crus.
Ah oui, ouais, ok.
Écusseau et Grand Champ. Qu'on assemble des petites parcelles. Donc, techniquement, c'est compliqué de faire des petits volumes. Et donc, on les met ensemble dans un Nos premiers crus.
Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais, je suis. Voilà. Ok, comment ça se passe le lancement d'un premier millésime? Je suppose qu'il y a plein de choses auxquelles vous avez dû penser. Peut-être que maintenant que c'est construit, ça va vous décharger un peu de boulot. Mais je pense que ça va de l'étiquette à la distrib.
La distrib est pas encore faite, tu vois. L'étiquette hier soir quand on est monté à Paris, la peinture était encore fraîche, tu vois. La veille, le jour même, on a cherché les étiquettes chez l'imprimeur. Donc c'est toujours ça, il faut se lancer, t'as raison. Après, on va faire en réflexion et au fil de l'eau aussi, mais. C'est un nouveau projet, faut le lancer, faut le mettre au grand jour, et c'est toujours sympa de discuter avec les gens, d'expliquer la démarche. Après, quand les gens sont habitués, ils connaissent la chose, mais c'est toujours plaisant d'expliquer ce que t'as pensé mûri pendant 2 ans avant de le sortir. Pour montrer ce que t'as dans la tête et ce que t'as dans la bouteille. Donc ça, c'est toujours intéressant.
Après, c'est vrai que ça a été quand même un petit peu d'appréhension. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. On avait quand même un peu de pression parce que voilà, il fallait pas qu'on rate la naissance du domaine. Après, je pense qu'hier on a voilà, on a fait une super déguste. Merci d'être venu. Merci à tout le monde.
Merci de m'avoir invité.
Bah, avec plaisir. Merci à tout le monde d'avoir voilà d'avoir joué le jeu et d'être venu pour découvrir nos vins. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Et nous, on a voilà, on a cette flamme aussi de vigneron. Parce qu'en face, on a des gens qui comprennent, qui s'intéressent, qui ont envie de découvrir. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Si on était juste vigneron pour nous-mêmes ou juste pour faire des raisins et pas aller au bout des choses, de pas faire naître des vins, c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, on serait peut-être un peu moins passionné, on aurait un peu moins la flamme, je pense. Ce qui est sympa, c'est qu'on va jusqu'au bout des choses et qu'en face on a des amateurs et des gens qui ont envie de connaître, qui ont envie d'approfondir, qui ont envie de nous suivre. Donc ça c'est génial. Après ouais, la commercialisation, on n'y est pas encore. On vient juste de terminer les vinifs, les décuvages. Ouais, voilà, donc on verra plus tard ça.
Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est assez incroyable dans le monde du vin, de pouvoir aller de la plante jusqu'au produit complètement fini en bouteille avec ton nom dessus aussi, ouais, avec une intention. Ouais, c'est, je pense qu'il y a assez peu d'industries où tu pars vraiment de zéro et t'arrives avec ton produit final que tu peux faire en plus déguster aux gens, leur faire passer un bon moment et tout, donc c'est ultra cool. Je pense que c'est une question qu'on a dû vous poser un peu, mais je vais quand même vous la poser. C'est que vous ont dit vos parents quand vous leur avez annoncé que vous vouliez reprendre ces vignes?
Oh ben alors, ils ont pas été trop étonnés parce qu'ils ont vu que voilà, qu'on avait envie de développer, qu'on avait envie de voilà d'avoir un petit truc aussi pour nous deux. C'est vrai qu'on est arrivé et sur l'Alsace et sur la Bourgogne, les choses étaient déjà un petit peu préétablies entre guillemets. Même si en arrivant sur l'Alsace et la Bourgogne, on a quand même fait bouger un peu de lignes. Puis encore, on est loin d'être à notre fin de carrière. Donc
c'est que le début, ouais, clairement.
Voilà, c'est que le début. Mais c'est vrai qu'ils étaient, nos parents, sont très ouverts et nous permettent énormément de choses. Ils sont en fait toujours en soutien et toujours en fait à nous booster, à nous donner l'énergie, la positivité. Donc c'est vrai que on a besoin d'eux. La sagesse, ouais, effectivement. Mais voilà, ils nous ont toujours soutenus dans tous nos projets. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est assez fabuleux et qui est pas forcément très courant dans le milieu de la viticulture. On a la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit et qui nous ont toujours poussés dans le bon sens. Et dans... c'est pas forcément le bon. Mais il faut des fois qu'on se casse un peu les dents pour pouvoir rebondir, ouais.
Non, oui, je suis d'accord. Ils nous ont poussé, ils nous ont dit, allez go, comment vous allez faire? Et c'est appréciable d'avoir des soutiens comme ça, sans jamais forcer les choses. Ils ont justement cette sensibilité. Certainement, ils faisaient pareil avec leur vigne. Ils nous ont poussé, ils nous ont accompagnés. Sans forcément le montrer, mais juste par touche, par petits conseils, par réflexion, et on accouche ensemble, enfin toute la famille ensemble, d'une réflexion, d'une logique, d'un sens. On veut aller dans ce sens-là, et ça se fait naturellement au final. Et ça, c'est vachement, c'est vachement appréciable, quoi.
Est-ce qu'il y a un moment dans l'accouchement de ce premier millésime, justement, où vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On a fait une connerie, les gars.
Tout le temps, on se remet tout le temps en question. C'est ça le problème. Il y a toujours des remises en question. Tu dis et quand tu goûtes un vin, quand il fermente ou quand il est en élevage, tu dis merde, là il y a un truc qui me chagrine. Tu le regoutes deux semaines après, ça s'est corrigé. Enfin, c'est quelque chose de vivant. Donc tu es en constante réflexion, en constante recherche. Et au final, vaut mieux laisser faire les choses, parce que les choses, si tu les fais dès le départ bien, ça toujours tout finit bien, donc heureusement. Non, il faut être fataliste aussi. Hein, c'est notre métier. Quand t'as le climat qui se dérègle, quand tu as de la grêle, faut être fataliste. Mais dans les deux sens, tu peux être fataliste et optimiste en même temps. La vigne fait son boulot, le raisin fait son boulot, enfin tout le monde fait son boulot et au final le résultat est là. Enfin, t'as pas à forcer les choses. Ouais. Donc ça c'est top. C'est top. On a de la chance. On a de la chance. Ouais.
Bon, c'est clair. Bravo pour cette aventure. Du coup, j'ai hâte qu'on se revoie dans 20 ans, dans 30 ans.
Ah non, mais bah avant quand même.
Mais... Non, mais alors bien sûr, on se reverra avant, ça, avec grand plaisir. Mais tu vois, qu'on puisse voir cette évolution, oui. Peut-être pas dans ces mêmes chaises et sur cette même...
On est pas mal.
Mezzanine,
hein.
On est pas mal, mais je pense que ça aura changé. Mais ouais, non, c'était super cool de faire votre connaissance. Je vous souhaite évidemment le meilleur dans ce lancement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. J'ai hâte de retrouver vos bouteilles dans les restos dans lesquels je vais, dans les différents bars à vin dans lesquels je vais.
Bah alors, hier, dans la déguste, on a déjà bouffé 10% de la récolte. Donc, je sais pas, t'en auras beaucoup.
On a été un peu...
On a bien bu, hein.
On a été un peu ambitieux. C'est clair. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente?
J'ai le micro. Allez. Alors c'est un copain, c'est Arthur Ostertag et il fait des sylvanaires qui sont époustouflants. Un sylvanaire, c'est un cépage qui a été complètement oublié, qui disparaît complètement de l'Alsace. Il n'entre pas dans la catégorie des, entre guillemets, cépages nobles, ce qui est une aberration pour moi complète. Donc ça te fait un vin qui est très volubile, très joyeux, t'as presque un côté umami que j'adore, que je retrouve, tu peux retrouver ça dans des sakés ou des choses comme ça, et je pense qu'il attend des belles maturités comme nos oligotés. Ça ressemble un petit peu aux oligotés justement, le sylvanaire, ça a un côté assez vert si tu le prends trop tôt, et assez facile, enfin c'est un vin qui est facilement appréhendable, et alors je sais plus le millésime, mais vous pouvez courir dessus, enfin c'est top, ouais c'est vachement bon.
Excellent, mais écoute, on va essayer dans
tropisme alsacien, ouais.
Exactement.
Moi du coup là j'étais un peu en train de réfléchir à ce que j'avais découvert un peu récemment, et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour un domaine qui s'est monté assez récemment sur la Bourgogne, qui doit avoir une histoire un peu particulière aussi. C'est le domaine MIA. C'était une découverte pour moi parce que j'en avais un petit peu entendu parler. C'est vrai que c'est des domaines qui sont assez nouveaux, mais j'ai eu justement ce ressenti d'émotion, ce ressenti d'énergie dans cette bouteille, et c'est vrai que c'était assez plaisant. Donc ça c'est un domaine que je viens de découvrir, dont j'avais entendu parler, mais voilà, qui fait des super vins. Voilà.
Top. Et ben deux belles recommandations. Alors, ce sera évidemment dans la description, du podcast aussi pour les personnes qui nous écoutent, dans la description des vidéos pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez un livre à me recommander sur le vin? Vous allez me dire le Steiner.
On va commencer avec toi, Pierre.
Non, c'est de la provoque. Non, c'est un livre, si, pour les amoureux de l'Alsace. C'est un livre écrit en allemand. Désolé.
Et vraiment être amoureux de l'Alsace.
Ah ouais, là il faut aimer. Non, et c'est vraiment la bible de la viticulture alsacienne, c'est Das Rebo des Alsace, du chanoine Médard Barthes.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Tchoum. Mais pour celui qui comprend, je crois qu'il y a eu des essais de traduction, ils ont dû s'arrêter. Mais vraiment, c'est quelque chose de très enrichissant si on appréhendait toute l'histoire et l'essence du vignoble alsacien, la comprendre profondément. Et c'est un livre, alors c'est un livre d'expert, hein, ça nourrit la réflexion, ça nourrit le cheminement intellectuel pour tous ceux qui veulent faire du vin en Alsace ou qui veulent vraiment comprendre l'Alsace. Ouais. Bon, Je suis désolé, c'est en allemand.
Ouais. D'habitude, je dis à mes invités que ce sera le prochain livre sur ma table de chevet, mais là, il va falloir attendre que j'apprenne l'allemand. Ouais, bah, enfin, d'abord, il faut que j'apprenne l'allemand, mais.
Puis, à mon avis, il faut que tu mettes des étés sous la table de chevet, parce que c'est un bouquin qui est assez épais, quand même. Et il faut à peu près, sans doute 6 mois de lecture, hein, pour en finir. Je suis même pas sûr que tu sois encore allé jusqu'au bout, là.
Ouais, mais je pioche.
Voilà, tu pioches. Non, non, c'est, voilà. Moi, je parle moins bien allemand que toi, donc, je te laisserai faire la traduction. Et puis après, bah pour ma part, moi c'est un peu plus léger, c'est un peu plus rigolo. C'est le bouquin. Tiens, ce matin quand on s'est réveillé avec mon fils Auguste, bah c'est le premier bouquin qu'il a chopé, qu'il tourne des pages, il montre du doigt et c'est vraiment assez amusant. Et c'est l'incroyable histoire du vin. C'est une petite BD qui se lit plus facilement que Des Reben, Des Rebo. Excusez-moi pour l'accent. Donc voilà, qui est plus, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa à lire et qui est assez où on comprend extrêmement bien, voilà, extrêmement pédagogique. Donc j'ai hâte qu'Auguste commence à savoir lire pour pouvoir
lui raconter l'histoire.
Ouais,
je l'ai pas encore lu. On me l'a recommandé 2-3 fois, mais je l'ai pas encore lu. Il faut vraiment que je me l'achète et que je le mette justement sur ma table de chevet. Dernière question. Qui sont les prochaines personnes que je devrais interviewer? Alors normalement, je pose la question de qui est la prochaine personne, mais non seulement vous êtes deux, mais en plus une de mes auditrices m'a fait un excellent feedback qui était: tu devrais demander un homme et une femme, comme ça tu facilites le fait d'avoir la parité dans ton podcast. C'est quelque chose auquel on y est presque, franchement on a quasiment 50-50. Mais donc du coup, bah maintenant j'applique ce conseil que je trouve super cool. Donc si vous avez une homme et une femme à me recommander, un homme pardon et une femme, je fais un changement.
Eh ben on va commencer par les femmes.
Le plus simple. Alors moi j'ai en tête encore une Alsacienne, hein, Catherine Riss. C'est une vigneronne alsacienne qui n'était au départ pas du tout dans le métier. Ses parents étaient restaurateurs à côté du Rhin. Et elle est venue en stage en Bourgogne quand on était assez jeune. Je m'en souviens très bien. C'est une fille pétillante, pleine d'énergie, enfin qui se bat vraiment. Et on a travaillé ensemble. On était jeunes, hein, on était tout petits nous. Mais quand on allait dans les vignes et en Bourgogne et en Alsace, elle était là, elle était bienveillante. Et aujourd'hui, elle fait des vins qui sont tout à fait intéressants. Elle a un tout petit domaine, ouais. 2006, tu vois. On vieillit. Et c'est quelqu'un, une vigneronne qui s'est battue dans la vie, dans ses vins, tout transparaît, toute l'énergie transparaît, et c'est, je pense, quelqu'un qui a une réflexion très intéressante aussi, au niveau des vinifications, du travail de la vigne, et t'aurais du grain à moudre avec elle, clairement. Ouais.
Bah, compte sur moi, alors je la contacterai. Pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, restez à l'écoute de ce podcast, parce que vous aurez peut-être l'occasion d'avoir cet échange avec Catherine. J'ai hâte.
Et alors moi, bah du coup, je pense, on pense aux copains toujours dans ces coups de temps-là, donc je pense que tu devrais inviter Adrien Pillot. C'est un super copain qui est sur Chassagne. La famille Pillot, c'est une très grande famille, très large sur Chassagne. C'est quelqu'un qui est assez intéressant, très passionnant. C'est aussi le parrain d'Auguste, donc voilà, on n'est pas neutre, mais voilà, c'est quelqu'un qui est, c'est un jeune qui est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a vraiment une belle énergie comme nous, et c'est quelqu'un, voilà, qu'il faut absolument que tu rencontres, podcast ou hors podcast, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui a des belles valeurs familiales, de travail, d'énergie, et voilà, c'est quelqu'un super.
Top. Et ben merci à tous les deux pour tout ça.
Merci
pour
toi,
cette recommandation. Merci d'être venu jusqu'ici aussi.
Ça allait. Il a pédalé tout seul.
C'est pas faux. Bravo pour tout ce que vous faites encore une fois. Je vous souhaite le meilleur dans la suite de cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui nous regardent, il y avait un live aussi en même temps. Je sais pas s'il y a du monde ou pas, mais j'irai voir après. C'est un test. Et auquel cas c'est pas grave. Pour les personnes qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les personnes qui nous écoutent, faites pareil, partagez ce podcast autour de vous s'il vous a plu, partagez ces vidéos autour de vous si elles vous ont plu, si vous avez appris des choses. Encore merci à tous les deux et à bientôt.
Merci de nous avoir écoutés aussi.
Ouais. Merci beaucoup, puis merci Antoine.